RTU sur RFI.
Merci d'écouter RFI, 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et le journal tout de suite avec vous, Grégoire Morelli. Bonjour.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous. Un tournant judiciaire sans précédent en République démocratique du Congo. La justice a en effet demandé au Sénat la levée d'immunité de Joseph Kabila, l'ancien président congolais qui fait face notamment à des accusations de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel. La RDC toujours, où les premiers transferts de militaires et policiers congolais depuis Goma vers Kinshasa ont commencé 3 mois après la chute du chef-lieu du Nord Kivu. Une opération qui se déroule sous haute surveillance et dans un climat tendu. Nous serons aussi au Kenya où un député a été tué hier soir. Charles Ongodo Were a été abattu par 2 hommes à moto en pleine rue dans la capitale Nairobi. Et au Gabon, les sanctions, c'est fini. L'Union africaine a suspendu hier celle qui visait le pays après le coup d'État qui a renversé Ali Bongo en août 2023. L'UE justifie sa décision avançant que la transition a été globalement réussie. Et juste après ce journal, vous retrouverez le journal des sports avec Antoine Grenier. On y parlera foot, bien sûr, mais aussi cyclisme avec le Tour du Bénin, avec un focus sur les assistants commissaires locaux, comme ce jeune étudiant béninois passionné de vélo que vous retrouverez dans le reportage d'Olivier Pron. En République démocratique du Congo, la justice a officiellement transmis au Sénat une demande de levée d'immunité visant Joseph Kabila. L'ancien président est accusé de trahison, de participation à un mouvement insurrectionnel, ainsi que de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui attend l'autorisation du Sénat, soupçonne Joseph Kabila d'être l'un des cofondateurs du groupe armé AFC. Les proches de l'ancien président dénoncent eux une manœuvre politique. Les explications de Patient Ligodi.
C'est une série d'initiatives qui ciblent clairement Joseph Kabila et un acharnement selon son entourage. Mais pour le ministre de la Justice, Constant Mutamba, il ne s'agit pas de harcèlement. Il affirme que des preuves irréfutables ont été réunies contre l'ancien président, aujourd'hui sénateur à vie. Il l'accuse d'être impliqué dans les violences contre les civils dans l'est du pays et prévient « la justice ira jusqu'au bout, qu'il comparaisse ou non ». Et ce n'est pas tout. À RFI, le ministre a aussi confié que certains proches de Joseph Kabila seront visés par des poursuites avec saisie de biens et ouverture prochaine de procès. Cette offensive judiciaire s'inscrit dans un climat politique de plus en plus tendu. Il y a 2 semaines, les autorités ont perquisitionné l'une des concessions de Joseph Kabila à Kinshasa pendant au moins 4 jours. La semaine dernière, son épouse Marie-Olive Lembe dénonçait la présence des militaires sur leur ferme familiale du Haut-Katanga. Elle parle de violations, de saisies et même d'abattage de bétail sur place. Dernier signal en date, le gouvernement a suspendu les activités du PPRD, le parti fondé par Joseph Kabila, sur tout le territoire. Autant de signaux qui traduisent une confrontation désormais ouverte entre le pouvoir actuel et l'ancien président.
On reste en République démocratique du Congo où 3 mois après la chute de Goma, les premiers transferts de militaires et policiers congolais vers Kinshasa ont commencé. Ces hommes avaient trouvé refuge dans une base de la MONUSCO après l'arrivée de l'AFC M23 soutenue par Kigali. Bonjour Nemo Impis.
Bonjour Grégoire, bonjour à tous.
L'opération d'évacuation sensible est encadrée par le Comité international de la Croix-Rouge, mais elle se déroule dans un climat de méfiance entre les deux parties.
Oui, et selon les informations de RFI, environ 1400 personnes sont concernées. Vous l'avez dit, des militaires, mais aussi des policiers et quelques membres de leur famille. Dans ce convoi, il n'y a pas de combattants Wazalendo. Ces groupes qui soutiennent l'armée congolaise, tous avaient trouvé refuge dans la base de la mission des Nations Unies à l'aéroport de Goma après la chute de la ville fin janvier. Ils étaient plus de 3000 à s'y être rendus à l'origine. Une évacuation volontaire, sécurisée et encadrée par une convention signée par les 4 parties, le gouvernement congolais, l'AFC M23, la MONUSCO et le CICR. Toujours selon nos informations, l'opération doit s'étaler sur 10 jours avec des convois d'environ 130 personnes chacun. Le transfert ne passe pas par l'aéroport de la capitale du Nord Kivu, toujours non opérationnel. Les convois quittent Goma par la route, sont ensuite héliportés jusqu'à l'aéroport de Mavivi près de Beni, puis acheminés à Kinshasa par avion grâce au soutien logistique du CICR. L'évacuation de ce groupe vers Kinshasa répond aussi à une condition posée par l'AFC M23 pour la réouverture de l'aéroport de Goma. Le départ des militaires congolais encore présents présents dans la base onusienne. L'opération se déroule sous haute surveillance, dans un climat tendu, mais avec le consentement de toutes les personnes transférées, conformément au droit international humanitaire, explique ces mêmes parties.
Merci à vous, Nemo Impis, pour ces précisions. Concernant toujours ce conflit à l'est de la RDC, le président du Burundi se réjouit des efforts diplomatiques du Qatar et des États-Unis pour tenter de ramener la paix en RDC. Évariste Ndayishimiye l'a déclaré hier chez nos confrères de France 24. Il a également confirmé le maintien de ses troupes sur le sol congolais et a réitéré ses craintes quant à une possible attaque rwandaise contre son pays. Je vous le disais en titre, un député kényan abattu en pleine rue hier à Nairobi, Charles Ongondo Were, a été tué par deux hommes qui circulaient à moto. Bonjour Vincent Dublange.
Bonjour.
Les faits ont eu lieu en début de soirée hier. Donc.
Il est environ 7h30 du soir dans le centre de Nairobi. Charles Ongondo Were circule en voiture conduite par son chauffeur. D'après des témoins cités par la presse et notamment Citizen TV qui a révélé l'information, le véhicule du député est alors pris pour cible par deux hommes à moto. L'un d'eux descend et tire sur l'élu à bout portant. D'après The Nation, Charles Were est conduit à l'hôpital de la capitale kényane, mais il succombe à ses blessures. Le président de l'Assemblée nationale du Kenya évoque un choc profond, une tristesse indicible. Charles Were était membre du parti de Raila Odinga. Il était député d'une zone rurale de l'ouest du pays, non loin du lac Victoria. Le journal The Nation affirme que la direction des investigations criminelles a ouvert une enquête. Une proche du défunt évoque face à la presse une montée de la violence dans la politique locale, dans le comté dont Charles Were était le député. Le responsable du crime est connu, ajoute-t-elle, des déclarations qui demeurent à éclaircir ce jeudi matin.
Merci à vous Vincent Dublange pour toutes ces précisions. Au Gabon, alors que le président Brice Clotaire Oligui Nguema arrivait au pouvoir après un coup d'État en 2023, prêtera serment ce samedi dans un stade de Libreville, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé hier de lever l'ensemble des sanctions imposées au Gabon. La décision a été prise depuis le siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, en présence du ministre gabonais des Affaires étrangères, Herman Imongo. Il s'est empressé d'annoncer la bonne nouvelle au peuple gabonais.
C'est qu'avec beaucoup d'honneur, de fierté et d'humilité que j'annonce au peuple gabonais, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le retour du Gabon au sein de la grande famille africaine. Cette décision, de la plus grande importance pour notre pays, démontre l'adhésion de l'organisation africaine au processus électoral du 12 avril 2025. En réintégrant l'Union africaine, notre pays sera renoué avec les grands forums internationaux, notamment Union africaine Corée du Sud, Union africaine Japon, TICAD, Union africaine Inde et dans un avenir proche, l'Union africaine et l'Union européenne, puis les ACP à Bruxelles. Je saisis l'occasion pour réitérer nos remerciements à tous les États membres de l'Union africaine, à ceux de la CEAC qui ont accompagné le Gabon avec une bienveillance durant cette période de transition.
Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Herman Imongo, propos recueillis à la télévision gabonaise par notre correspondant Yves-Laurent Gomam. Au Mali, hier soir, en Conseil des ministres, un projet de loi a été adopté abrogeant la charte des partis politiques en vue de leur dissolution. C'était l'une des principales recommandations publiées mardi soir lors des consultations avec les forces du pays, forces vives du pays, des forces vives qui ont aussi demandé l'élévation du général Assimi Goïta au rang de président de la République pour 5 années renouvelables, mais les autorités n'ont pas encore communiqué sur ce point. Plus de détails dans le journal de 6h, heure de Paris. Taïwan proteste et dénonce une restriction de la liberté d'aller et venir après la décision de la Somalie qui vient d'interdire aux ressortissants taïwanais l'entrée sur son territoire. L'autorité somalienne de l'aviation civile a informé les compagnies aériennes que les passeports taïwanais ne seront plus valables pour rentrer ou transiter par la République fédérale de Somalie. Taipei dénonce des pressions de la part de Pékin et réclame la révocation de ces mesures, Vincent Souriau.
Pour justifier son choix, la Somalie cite la résolution 2758, un texte voté à l'ONU dans les années 70, qui, selon Mogadiscio, consacre le principe de la Chine unique. Autrement dit, les autorités somaliennes s'alignent sur la rhétorique de Pékin, selon laquelle Taïwan devrait revenir dans le giron chinois. Ce que la Somalie n'apprécie pas du tout, ce sont les liens entre les Taïwanais et le Somaliland, un territoire qui a autoproclamé son indépendance de la nation somalienne en 1991, qui n'a jamais jamais été reconnu par le gouvernement somalien ni par la communauté internationale, mais qui a forgé des relations diplomatiques avec Taïwan en 2020. La présidence taïwanaise a même entraîné les militaires du Somaliland, offert des bourses à ses étudiants, fourni de l'aide médicale et financé la construction d'infrastructures locales. Proximité devenue trop gênante pour la Somalie qui veut à tout prix récupérer le Somaliland et qui voit désormais dans cette amitié avec Taïwan une entrave à son intégrité territoriale.
Les précisions de Vincent Souriau. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé hier la mise en place d'une commission pour enquêter sur le manque de justice autour des crimes qui remontent à l'époque de l'apartheid. Suite au travail de la commission Vérité et Réconciliation, de nombreux suspects qui n'avaient pas obtenu d'amnistie auraient dû être poursuivis devant les tribunaux. Sauf que très peu ont finalement été inquiétés. C'est pourquoi plusieurs de ces familles ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux en début d'année afin de réclamer des explications mais aussi des dommages et intérêts. Le président sud-africain semble donc les avoir entendus au travers de cette future commission d'enquête. Il souhaite également que la lumière soit faite sur les soupçons d'interférence politique. On a beaucoup parlé de l'impact des coupes de l'administration Trump dans l'aide au développement et les actions humanitaires à travers le monde. L'arrêt brutal des financements américains touche aussi la société civile dans ses programmes de promotion de la démocratie et notamment de surveillance électorale. Ainsi, au Cameroun, alors que le pays se prépare à une élection présidentielle en octobre, des organisations habituellement mobilisées en amont et durant le scrutin pour observer de façon indépendante le vote se retrouvent privées de moyens. Amélie Tullet.
Du jour au lendemain, des projets arrêtés pour l'organisation Un Monde à Venir, coordonnée par Philippe Nanga, la fin de l'aide américaine, c'est la perte du plus gros partenaire.
Nous avions un projet avec l'ambassade des États-Unis qui était un projet de $65,000. On avait à peine démarré quelques semaines. On avait des animateurs qui devaient être déployés sur le terrain pour faire de la sensibilisation et l'éducation électorale. On avait prévu également l'observation électorale. Tout ça, c'est annulé.
Annulé aussi ce programme de formation préparé depuis des mois par l'équipe de Cyril Roland-Béchon, directrice de Nouveaux Droits de l'Homme Cameroun.
Nous n'allons pas pouvoir former les organisations locales sur le suivi du processus électoral, pas pouvoir renforcer les capacités institutionnelles pour que les organisations soient plus durables et plus efficaces. Quelque chose doit être fait. La société civile ne peut pas être mise hors jeu en ce moment de l'histoire de la démocratie au Cameroun.
Pour Philippe Nanga, il n'y a rien à attendre des autorités, il faut à présent se tourner vers d'autres partenaires.
Si jamais il se trouve qu'il n'y a pas la possibilité pour la société civile de se déployer sur le terrain, il n'y aura pas un acteur pour pouvoir dire ce qui s'est passé. Je crains que finalement, on se trouve dans une situation où les gens se découragent de plus en plus et qu'il y a une participation faible et donc qui va aggraver la possibilité de conflit.
Code électoral décrié, résultats régulièrement contestés, la société civile camerounaise appelle le Canada et l'Union européenne notamment à la soutenir en cette année décisive.
Amélie Tullet pour cette fin d'édition. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez d'ailleurs réécouter ce journal sur notre site RFI.fr et notre application Pure Radio. Mais là, dans l'immédiat, c'est la suite de RFI Matin avec vous, Andréane Mellard.
Bonjour Grégoire Morelli, merci beaucoup. 7h bientôt 43 à Paris dans 20 minutes. Un nouveau journal sur RFI présenté par Jeanne Bartoli. À la une, cet accord sur l'accès aux ressources